Voilà, ça. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Aggredisci.
Passato, tu che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dice? Proprio fa che dice?
Bien le bonjour et bienvenue dans Cinémascope pour les amateurs de 24 images secondes. Nous avons quand même réussi à interrompre le vif débat qui se déroulait en studio à propos de l'histoire, des religions, des gouvernements politiques des hommes. Enfin, vous voyez, nous sommes des partenaires de haut, haut niveau. Qui ça donc ? Eh bien, Julien. Bonjour, Julien.
Bonjour.
René,
bonjour,
et votre serviteur Olivier pour parler de films que l'on peut voir à Privas, que l'on peut voir à Aubenas, au Vivarais ou au Navire. Un menu copieux avec Apollonia de Léa Globe, Le jeu de la reine, Firebrand dans la langue de Shakespeare, puisqu'il s'agit un peu de l'époque, et puis L'Empire de Bruno Dumont, et j'aimerais, avec Julien d'ailleurs, je crois, redire quelques mots du dernier Wim Wenders, Perfect Days, qui, je crois, le mérite, qui est encore visible plusieurs fois sur les écrans du navire avant de s'en aller vers ses destinées. Futur, Apollonia, un documentaire de Léa Globe que tu as vu, Julien.
Oui, on parle de celui-là en premier, c'est ça ?
Ben ouais, voilà, moi j'ai un plan.
Alors. Voilà, ben écoute, tu le suis, c'est formidable. Tu suis le plan.
Je suis le plan.
J'aime les plans sans accroc. Voilà.
Mon Dieu.
Voilà. Donc Apollonia, oui, c'est un film, comme tu l'as dit, de Léa Globe. Alors c'est un petit bijou de cinéma documentaire, en fait, si vous êtes féru du genre et même si vous ne l'êtes pas. Il faut voir que c'est un tournage qui a Léa Globe, donc une documentaliste, on va dire, danoise, qui a commencé à filmer Apollonia Sokol, qui est une artiste à l'époque peintre en devenir, puisqu'elle fait ses études à Paris, et donc elle va la suivre pendant 13 ans. Donc il faut imaginer 13 ans de rush à monter et à proposer dans ce film. Donc c'est assez impressionnant le travail qui a été fait. Notre aspect, c'est effectivement, on voit l'artiste en devenir qui est en train de se créer, en fait. Se créer, je pense que c'est le mot même le plus ouais, juste, puisque effectivement, on la voit, elle va aller à l'école du Louvre, voilà, suivre des études, son concours de fin d'année, et elle finit à la maison Médicis à Rome. Donc on voit tout le cheminement qu'il y a eu, avec un passage à New York, enfin aux États-Unis en tout cas, avec un passage au Danemark. Enfin voilà, c'est un film assez incroyable pour ça, parce que là on est dans le monde de l'art, on croise à la fois des brigands et des gens, on va dire, beaucoup plus sympathiques. Voilà, et c'est aussi parce qu'il y a énormément de choses de ce film, c'est pour ça que je dis c'est une vraie performance. C'est aussi le portrait d'un lieu le lavoir moderne, qui appartenait aux parents de Apollonia à Paris, et là où elle est née, et là où elle a grandi, et jusqu'aux difficultés que vous découvrirez dans le film. Mais en tout cas, on voit aussi ce lieu où des gens viennent, sortent, des artistes, un lieu très artistique, et là où se sont réfugiés dans ce lieu les Fémènes, quand elles ont fui l'Ukraine à l'époque. Voilà, donc on voit Oksana, alors j'ai oublié le nom de famille, mais qui est présente, celle qui avait les deux bras cassés, parce que voilà, au moment où elle a fui. Voilà, on voit aussi cette histoire, en fait la petite histoire, parce qu'elle n'est pas si petite que ça, de cet artiste, rejoint la grande histoire avec ses mouvements féministes qui s'impliquent. Alors, C'est très bien fait parce que c'est en fond, on voit l'amitié qu'ils ont avec Oksana, puisqu'elle est, voilà. On les voit de temps en temps en fond parce qu'elle l'interviewe, elle passe, elle discute, il y a des réunions qui se font, ils parlent de politique. Mais c'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. C'est le portrait aussi d'une réalisatrice parce qu'à un moment donné, on la voit dans le film parce qu'elle raconte cette histoire qui est quand même assez incroyable, qui la touche même à la fois de façon personnelle puisqu'elle s'attache à cette personne-là. On voit Apollonia fuir, on va dire, les sirènes américains et l'argent américain, on en parlait tout à l'heure, qui la paye, parce que là-bas, en fait, ils n'achètent pas les œuvres, mais les artistes, directement. Et on voit la manière, on va dire, comment elle arrive à fuir ça, parce que Apollonia, c'est aussi quelqu'un très engagé dans les luttes pour les minorités, pour les femmes, et voilà. Et donc, du coup, on voit aussi, il y a un passage où on voit comment elle se réapproprie son corps aussi à un certain moment pour fuir, on va dire, les Américains. D'ailleurs, il y a un bref passage où on parle de Weinstein dedans. Donc voilà, elle est, je veux dire, 13 ans de tournage avant MeToo. Voilà. Donc c'est un film vraiment très passionnant avec une très belle énergie tout au long du film et qui, on l'a projeté il y a 10 jours, il y a 2 semaines, on l'a projeté en avant-première à l'USAS, on l'avait projeté en avant-première aux Rencontres des cinémas d'Europe, si vous vous rappelez.
J'ai raté à chaque fois.
Et, ouais. et les gens sortent bouleversés de ce film-là. Voilà. Ouais. Voilà. Je crois que j'ai dit beaucoup de choses déjà. Voilà, allez le voir. Je pense que le film le mérite. La réalisatrice aussi. C'est cette relation aussi entre la réalisatrice. C'est très beau, très beau film.
D'accord.
Ouais, une des vertus du cinéma de nous faire toucher un peu mieux la réalité politique, personnelle, affective, la réalité totale. Un autre film qui a, je l'espère, pas la prétention de nous faire toucher à la réalité historique des choses, c'est Le Jeu de la Reine, Firebrand. On a une bande-annonce, c'est parti.
We're proud of you. You're an excellent regent.
The Queen!
The Queen!
I wish I could have done more.
I bet. You must be careful. Always hold the line.
Revolution is upon us!
Flirting with the radicals, it could endanger the stability of this realm.
My conscience is clear. I believe that I was chosen by God.
Oui, un film de Karim Aynouz, Le Jeu de la Reine, Firebrand, dans le titre original, avec une performance, on va le dire quand même, assez exceptionnelle de Jude Law, particulièrement engagé dans ce film, puisqu'il s'est bouleversé physiquement pour coller au prétendu personnage d'Henri VIII. Alicia Vikander, qui campe Catherine Spaar, une anglaise du XVIe siècle, connue pour ses tendances réformistes, à une époque où l'anglicanisme et le catholicisme règnent encore la majeure partie de l'Europe. Et puis Eddie Marsan, Une belle mort, d'autres films... Une belle mort.
Je sais plus le nom.
Il organise les obsèques
oui,
des anonymes.
Ça, ouais. Mais je crois que c'est Une belle vie. Je crois que ça s'appelle comme
je
ça.
Je sais plus. Bah, bon, enfin, un acteur qui est tout à fait estimable, qui joue le rôle de Lord Seymour de manière assez intéressante. Donc, un film en costume, vous l'aurez compris, qui se déroule sous le règne de Henri VIII, donc dans la seconde moitié du XVIe essentiellement. Julien, je te laisse la parole. Voilà. Tu l'as vu aussi.
Oui, alors je l'ai vu aussi. Alors, hormis le contexte historique, parce que ça a été un peu notre débat avant, c'est effectivement, moi je me suis pas du tout attaché, on va dire, à la réalité historique. C'était pas du tout pour moi le sujet du film. Pour en parler, tu pourras en dire un mot d'ailleurs voilà. Mais moi je me suis attaché quand même à un réalisateur que j'aime beaucoup, que j'avais découvert dans La Vie Invisible de Rediz Guzmão, qu'on a projeté là à plan large il y a un mois.
C'est magnifique.
Et qui est un film, un mélo magnifique, hein, des plus beaux films brésiliens de ces dernières années. Donc,
tiré d'un livre d'ailleurs également magnifique.
Voilà, avec deux personnages principaux où on suit deux sœurs tout au long de leur sur plusieurs années, voilà, au Brésil. Et donc il avait fait ce film-là, donc j'étais très content de voir d'aller découvrir son nouveau film. Et effectivement, voilà, il reste dans cette ligne-là, c'est-à-dire montrer, on va dire, faire la part belle aux personnages féminins, on va dire, centraux, où effectivement Alicia Vikernes, elle est à l'écran tout le temps, elle est magnifique. Je trouve qu'il y a une ambiance dans le film qui est quand même assez... pour moi, on est dans une espèce de thriller historique, voilà, comme on peut lire des romans comme ça qui se passent, où il n'y a pas forcément médiéval fantastique un peu, puisque finalement l'histoire est un prétexte en fait à raconter un personnage avec un ogre qui est un espèce de roi, mais comme il est décrit dans l'histoire entre guillemets comme un méchant, un vrai méchant, un roi méchant qui a assassiné, c'est une barbe bleue on va dire de l'époque, voilà. Et cette femme, en fait, on voit sa stratégie pour essayer de survivre dans ce monde d'hommes très agressif et violent. Et au milieu de ces manipulations, on va dire à la fois politiques, etc., il y a un côté un peu Game of Thrones aussi qui est présent, voilà. Et donc, du coup, j'avoue que j'ai pas trop boudé mon plaisir à plonger dans cet univers-là, qui à la fois, il y a une vraie ambiance, une vraie patte, là. On reconnaît quand même qu'il y a un réalisateur qui est aux manettes, qui est, voilà, avec un chef-op et des costumes, etc., qui est vraiment très intéressante. Deux acteurs, bah, tu en as parlé de Jude Law et d'Alicia, qui sont, moi, je trouve, assez formidables dans le film. On les trouve. Moi, j'ai. Alors, Alicia, je l'ai redécouvert parce que moi, je sais qu'elle fait des séries ou ce genre de choses, mais on l'avait fait jouer dans. Je l'avais vu dans Blue Bayou, qui était aussi un film qui était vraiment américain, là, qui était vraiment chouette. Et elle a toujours des rôles comme ça où elle est quand même, je trouve, assez à la hauteur. Elle a une filmographie assez particulière entre RSC, grand public, enfin voilà, elle navigue là-dessus. Mais en tout cas, c'est une grande actrice. Et tu as parlé aussi de Marsan, là.
Eddie Marsan,
qui lui, on le retrouve. Voilà, là il a fini de manger sa boîte de thon là, qu'il mangeait tous les jours, et là il est passé à autre chose. Mais en tout cas, c'est le personnage du coup. Moi, j'avoue que j'ai pas trop boudé mon plaisir là-dessus. Si vous aimiez les intrigues politiques, les histoires, on va dire, de femmes fortes, après on est un peu dans une espèce de l'ère du temps, effectivement, de laisser la part belle aux personnages féminins, et c'est très bien, je trouve aussi, voilà, qu'on ait ces personnages historiques. Qu'on n'a pas que des mecs au Moyen-Âge, quoi. Il y a aussi des femmes. Et leur laisser une petite place, c'est pas mal. Donc, du coup, voilà. Voilà, moi, je dis. Donc, pour moi, c'est vraiment un film à aller découvrir, à se faire plaisir un peu si vous aimez ce genre-là.
Oui, donc, moi, effectivement, vous l'avez compris, donc c'était un peu l'objet de notre débat avant que nous prenions l'antenne. Donc, il faut savoir, bon, ça, c'est facile à vérifier en allant dans les bonnes encyclopédies, il est facile de vérifier que le film est à peu près intégralement faux dans sa peinture des personnages et des événements. Donc on est au début de la Renaissance, on est au moment des conflits religieux et politiques et des guerres et effectivement des hommes, ça va de soi. Malgré tout, le film donc a sur la base d'un certain nombre de négations et de révisions, se transforme en une espèce de pamphlet un peu woke, un peu américano-anglais, plus que britannique d'ailleurs, hein, plus anglais que britannique, hein, bien sûr. Et donc effectivement, quand on est un petit peu au courant et concerné, mais ne serait-ce que par la pédagogie, on est un peu effrayé de voir comment effectivement on peut prendre de cette manière-là le pouvoir sur les écrans pour rabâcher la leçon habituelle des hommes versus les femmes, des blancs versus les noirs, parce que la demi-infante d'Espagne, Marie, là, qui arrive à la cour d'Henri VIII, elle a quand même comme suivante une femme noire, alors que la découverte des Amériques, elle date de... Ouais, donc on a l'impression que elle a que quelques... Enfin, c'est deux générations. Enfin, c'est un peu particulier. Et là, l'image finale, c'est d'ailleurs Marie avec la suivante de l'autre, Marie... ça vous fait presque un taïjin noir et blanc comme ça avant qu'elle se sépare. On ne sait pour quelle destinée, alors que Marie part... s'est remarié à une fille, enfin bon, c'est historiquement entièrement faux, et donc c'est un peu gênant, En plus, bon, on a quand même une réalisation assez shortcut comme ça, avec des scènes qui débordent un petit peu de costumes et d'action. Marie et Henri en viennent aux mains et pas qu'aux mains, parce que Henri veut un héritier, n'est-ce pas? Donc, forcément. Alors, tout ça fait une image un petit peu dégoulinante, un petit peu débordante à la d'Audin Bouffant, un petit peu comme ça, un peu boursouflé. Henri VIII est en habit d'apparat H24. Enfin, c'est un petit peu particulier. Donc, effectivement, ça peut se voir comme un film d'aventure
historique,
oui. En costume, on va dire.
En costume plutôt.
Plutôt qu'historique. Il n'en reste pas moins que c'est un petit peu gênant. Et j'avoue que j'ai été très surpris. Je n'avais pas bien préparé mes devoirs, je n'avais pas bien fait mes devoirs, mais j'étais un peu surpris d'apprendre que c'était le réalisateur des vies de...
Mais ils sont allés la chercher parce qu'ils voulaient faire justement, mais je pense que ça, enfin en tout cas les producteurs du film, moi ce que j'ai vu c'est qu'ils sont allés le chercher lui parce qu'ils voulaient pas faire un énième, on va dire, film historique justement d'action, voilà, ouais. Et ils voulaient vraiment avoir une patte, on va dire, différente, originale, ils sont allés chercher, voilà, et ce cinéaste effectivement... c'était un portrait de femme, vu ce qu'il a fait précédemment. Voilà, ils avaient envie d'avoir ça. Donc, je pense qu'il y avait une...
C'est la personne qui va succéder à Henri VIII, quand même. C'est Marie Ière, Bloody Mary, quand même. Hein.
Voilà, Marie
Tudor. Ouais. Donc en termes de paix du gouvernement par les femmes, on a fait mieux, surtout que va lui succéder Élisabeth Ière, qui n'est pas non plus un monstre de douceur.
Non, pas exactement. Marie Stuart s'en souviendra.
Oui, exactement. Donc, voilà, c'était un petit peu cette mise au point que j'avais envie de faire, parce qu'évidemment, il y a une liberté de création qui est totale et qu'on ne va pas du tout question de revenir là-dessus. Mais l'instrumentalisation de l'histoire au profit des capitaux américains, ça me gêne un peu plus. On va changer d'empire. On va passer de l'empire américain à l'empire de Bruno Dumont. Et voilà. Et on a la bande-annonce.
Étant son proche.
Sire, vous voici enfin parmi nous.
Ne tardons pas.
Nous livrons bataille pour la cause dont vous êtes la souveraine. Ici, sur la terre.
Vous n'avez pas vu un ovni?
Un quoi?
Un ovni.
Les humains sont attachants.
C'est pour cela que nous allons envahir la terre tout entière.
Le prince des ténèbres doit être enlevé de la surface de la Terre.
Celui qui touche à mon Freddy, il y a deux pieds à sa gueule.
L'entreprise est vouée à l'échec.
La gendarmerie sont de coup.
Mais les humains, Johnny, sont nuls.
Faites attention à ce que vous dites. Vous vous adressez quand même à la gendarmerie nationale.
So what?
Bon, alors là, moi, dubitatif. J'ai vu la bande-annonce, je suis heureux, René, que tu sois allé voir ça.
Je l'ai vu il y a longtemps, parce que je ne l'ai pas vu à Aubenas, mais je voulais le voir parce que j'aime bien Bruno Dumont. Je pense que c'est un metteur en scène qui fait des choses horribles, d'une grande originalité, et je voulais voir ça. Donc c'est un film qui s'ouvre sur la vie ordinaire, ô combien ordinaire, d'habitants d'un village de pêcheurs de la Côte d'Opale. D'entrée, on est donc dans cet univers des Hauts-de-France, cher à Bruno Dumont, qui tourne la plupart de ses films. Mais très vite, le film bascule dans une autre dimension, quand on assiste à la lutte sanguinaire entre deux clans d'extraterrestres, chevaliers épiques d'empire interplanétaire, qui s'affrontent avec vigueur à la naissance d'un marga, un bébé progéniture d'un couple de ch'tis. Et là, j'avoue n'avoir pas trop bien compris quel était l'enjeu de cet enfant. Ce film est pour le moins déroutant et je dois avouer qu'il a beaucoup dérouté la critique. Je me suis amusé à lire ce qui avait été écrit sur le film. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop compris où il voulait en venir, à certains niveaux. Mais quand même, c'est donc une lutte sans merci à laquelle se livrent les forces du bien, incarnées par l'actrice Camille Cotin, qui est à la tête, qui est la grande prêtresse des forces du bien, et les forces du mal, incarnées par un Lucchini plus cabotin que jamais. Ce film est évidemment une parodie des films de science-fiction en général et de la guerre des étoiles en particulier. C'est un film picaresque dans sa forme. On a d'un côté la vie quotidienne de ses habitants, des habitants de ce village de pêcheurs des Hauts-de-France, saisis dans toute leur truculence. Vous avez dans la bande-annonce, vous avez entendu là, une vieille dame qui menace d'en venir au coup avec un accent inimitable. Ils ont leur franc-parler. Il y a beaucoup, un certain nombre d'acteurs et d'actrices qui étaient pressentis pour le film, finalement se sont retirés en disant que c'était un film raciste et tout, je ne sais plus trop quoi. C'est pas vrai du tout. Je pense que Dumont ne se moque pas de ces gens-là. Je vais y venir un peu plus tard. C'est pas du tout son but. Enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, le politiquement correct fait dire beaucoup de bêtises. On a aussi, bien sûr, les décors donc, de cette région que Dumont fait si bien filmer. Ça, c'est très important, je trouve. Il tire un parti merveilleux de ces Hauts-de-France qu'on connaît mal, sur lesquels on a une image négative, nous qui sommes du Midi, alors qu'en fait, il y a de très belles choses là-haut. On a des scènes burlesques avec le couple de policiers que les téléspectateurs qui ont vu le petit quinquinque du même Bruno Dumont vont retrouver dans ce film. Et là, ils sont plus incompétents et plus hilarants que jamais. Avec celui qui joue le commissaire en particulier, il est absolument inénarrable. Mais on a aussi, science-fiction oblige, des vaisseaux spatiaux gigantesques, dont l'un d'entre eux en forme de cathédrale gothique, d'autres en forme de palais, style Versailles, et qui contrastent avec les décors ô combien ordinaires de ce village de pêcheurs des Hauts-de-France. On a ce contraste aussi entre les acteurs professionnels comme Lucchini ou Camille Cotin et des acteurs amateurs dans des rôles ô combien improbables de chevaliers d'empire interplanétaire qui tranchent allègrement des têtes avec des sabres laser. Et ce contraste entre le jeu très maîtrisé des acteurs professionnels d'un côté et le jeu plus naturel, plus approximatif des acteurs amateurs apporte quelque chose au film, à mon avis. Il y a un petit côté déconstruction, critique des films de science-fiction là-dedans, qui nous ramène sur Terre. Voilà, c'est un film qui a l'air de nous dire ouais, « tout ça, finalement, les vaisseaux tout ça, interplanétaires, c'est du cinoche, quoi. » Au bout du compte, on a un film patchwork, déroutant, déjanté, déroutant et fait pour dérouter, ça c'est clair. Dans ce film, Dumont cogne, et il cogne dur, sur cette tradition cinématographique américaine, bien commerciale, celle des films de science-fiction à grand spectacle, pour nous offrir un opus parodique, pour nous dire, c'est du moins ce que moi j'ai ressenti, plus que compris à la projection de ce film, les films de fiction classique ne nous disent rien. Les films de science-fiction classique ne nous disent rien sur la vie des hommes que nous sommes. Ils nous confrontent à des personnages plus grands que nature, costumés de façon extravagante. Et dans ce film, au contraire, Dumont semble nous indiquer avec des personnages proches de nous, des gens on ne peut plus ordinaires, qui se trouvent confrontés à une autre dimension, une dimension spirituelle, puisque ce combat acharné met en scène dans le film, c'est le combat entre les forces du bien et les forces du mal. Mais si spiritualité il y a, elle ne peut concerner que des êtres réels, aussi réels que possible. Pas des pantins hollywoodiens, pas des marionnettes, mais des êtres qui nous ressemblent. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce film. C'est la spiritualité qui leur tombe dessus, là. Mais c'est des gens comme nous, finalement. Alors voilà, et c'est là que j'en viens, là. Et que je rejette complètement cette critique que certains ont émise, selon laquelle ils se moquent des gens du Nord. Pas du tout. Il s'agit de montrer des gens qui ont les pieds dans la terre, quoi. Ouais. Qui sont des gens ordinaires. Voilà. Alors que je veux dire, les personnages des films de science-fiction américains, ils ne nous disent rien. Ils n'appartiennent pas à notre monde. C'est des films, c'est des objets ripollinés, distants de nous. Alors que là, encore une fois, j'insiste, la spiritualité, c'est l'affaire de tout le monde et en partie des petites gens. Ouais, il me semble, en tout cas. C'est ce que la lecture des évangiles m'ont appris. Voilà, un film.
Tu dis ça, toi ?
Eh oui, ben bien sûr, il faut bien. Voilà, un film déroutant, certes, mais qui sort des sentiers battus. Un film avec beaucoup de clins d'œil. Les protagonistes des forces du mal sont des hommes. Les protagonistes des forces du bien sont des femmes. Ça, c'est peut-être. Je ne sais pas si c'est pas un peu politiquement correct. Les méchants habitent des palais style Versailles. Au contraire, les forces du bien, un bâtiment qui rappelle beaucoup la Sainte-Chapelle. Voilà. Un film dépaysant, rafraîchissant, un film d'une grande originalité formelle. Ce qui, reconnaissons-le, nous change de la vaste majorité des films qui sont d'un réalisme extrêmement convenu.
Je t'écoute avec plaisir. Je constate une fois de plus, mais en est-il besoin, la diversité du cinéma. C'est absolument incroyable quand on pense qu'on vient de parler d'Apollonia à Apollonia, du Jeu de la Reine et puis de l'Empire de Dumont. C'est absolument incroyable. Et donc, j'en profite parce que j'y tenais beaucoup, et puis Julien était d'accord avec moi, pour parler d'un autre cinéma encore de très très grande taille à mon avis, celui de Wim Wenders bien sûr. Nous avions vu aux rencontres des cinémas d'Europe Anselm Kiefer, son documentaire sur le peintre allemand, le plasticien allemand, c'est-à-dire plutôt que peintre plasticien, et j'attendais avec impatience la venue au navire de Perfect Days, sa dernière fiction.
Superbe.
Magnifique, tu as vu aussi ?
Ah, superbe.
Bon,
voilà. Pour moi.
Alors, nous sommes trois. Alors, j'en profite pourquoi ? J'en profite parce que Perfect Days est encore visible au navire cet après-midi à 15h. Dommage pour les rediffusions de 17h10. Mais vous aurez encore la possibilité de vous rattraper au terme d'un triple saut périlleux arrière en allant soit le voir samedi 6, soit dimanche 7, soit encore lundi 8. Julien, que aurais-tu envie de dire ce film ?
Pour moi, c'est un des plus plaisants, on va dire, films de l'année. Ouais, je pense que c'est le mot, en fait. Un vrai bonheur de cinéma. Tu t'assois dans ton siège et tu passes, alors je sais pas combien de temps, deux heures avec ce film. Sans t'ennuyer une seconde, alors pourtant c'est des toilettes qui sont souvent à l'écran, mais à la fois l'acteur est vraiment génial, la répétition est agréable parce que c'est filmé de façon différente, parce que il refait un peu la même chose tous les jours, il a une vie
culture des toilettes,
il y a des choses qui, mais
c'est
il y a, voilà, c'est une espèce de rituel, et toi t'es dans une espèce de rituel de cinéma parce que les plans sont beaux, la musique est belle, ce qui est dit c'est touchant. Donc voilà, je peux pas dire plus que ça. Moi je me suis mis dans mon fauteuil. Là, c'est pas un film doudou, mais ça serait trop le réduire, on va dire. Mais c'est un film, film de cinéma. Voilà, imaginez-vous dans un cinéma, dans un bon fauteuil de cinéma, et faites-vous plaisir à aller voir ce film-là. Vous allez en sortir, je pense, ravi.
Complètement. Moi, j'ai un ami qui a vu le film derrière ma compagne et moi. À la fin du film, on se regarde, on sait pas trop quoi dire. Et il me dit, ça c'est un film que je vais garder longtemps. Ouais. Voilà, et je trouve que c'était. Il avait tout dit, on s'est séparés, on est rentrés à la maison. Je savais pas, j'ai pas préparé. René, tu l'avais vu aussi ?
Je l'ai vu aussi. Je partage tout ce que vous avez dit. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est la douceur de ce personnage, comme on dit dans un monde de brut. Je pense qu'il y a c'est un film sur la sagesse. C'est un film qui est un sage. Comme il n'en existe plus, parce que autrefois, souvent, les sages, c'était des religieux. Là, il y a un recul du religieux. Donc, c'est un sage profane et qui est bouleversant. Et notamment, on voit ça. Il y a une critique de la folie japonaise avec ces gens qui se rendent malades à force de bosser, qu'on voit apparaître quand il rencontre sa sœur, qui appartient à ce monde. Et lui, au contraire, il est tout dans la méditation et dans le rituel justement dans lequel il trouve des racines. Ouais. On vit un monde de déracinés. Lui, il est enraciné au sens où tu sais bien, Simone de Veil parlait d'enracinement. C'est un film là-dessus aussi.
Oui, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a survécu à quelque chose. Il a un passé qu'on ne connaît pas, mais qu'on devine ou qu'on peut imaginer, qui n'est jamais dit. Mais on voit en fait la résilience et comment on peut faire de sa vie avec peu de choses finalement une vie pleine une vie pleine et remplie et comme tu dis à contrario avec la vitesse, le fric, tout ce que tu veux quoi, c'est assez très beau.
Distraction pascalienne,
c'est un très 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 beau film. Je repense toujours à Wim Wenders, vous voyez la première séquence de Paris Texas, tu sais, avec Ry Cooder, il traverse le désert comme ça dure très longtemps parce qu'il y a cette guitare qui s'étend. Et en fait, ce film-là, je me dis, ça m'a rappelé, en fait, après coup, je me suis dit, tu vois, il s'est jamais arrêté de marcher, quoi, et puis il s'est retrouvé au Japon, quoi.
Ouais, ouais. Et donc, moi, évidemment, je suis complètement d'accord avec mes camarades, Julien et René, sur ce film. Je note d'ailleurs par rapport à ce que disait René qu'effectivement il accomplit sa tâche avec une sorte de perfection quotidienne très zen, hein, d'une certaine manière. Mais un jour, son collaborateur peut pas venir, il est obligé de se faire deux services et il téléphone à ses patrons et il dit « je referai pas ça une fois de plus ». Il y a donc un refus de cette espèce de délire du travail et de la consommation, etc. Et c'est peut-être la base de sa sagesse, hein, le refus de l'excès, de la croissance à tout prix. Et c'est peut-être de là qu'il s'enracine, à partir de ce refus de l'excès. Moi, j'avais juste envie de dire que ce film m'avait fait l'effet d'un film global, pas total, parce que total, ça fait toujours un peu totalitaire comme ça. Global au sens où il est porteur de tout. Il y a une réflexion spirituelle, morale, politique finalement. Il y a une réflexion esthétique sur les deux grands métiers de Wenders, qui sont quand même la photographie et le cinéma, le documentaire et la fiction. Et ce film, dans ce film, il y a tout ça. Et ça nous est, comme le disait Julien, ça nous est apporté comme ça à nous qui sommes assis confortablement dans notre fauteuil. Et ça nous est apporté tout fait. Ça m'a fait irrésistiblement penser, bien que le film n'ait absolument rien à voir, au dernier film que nous avons vu, Les Feuilles Mortes, d'Aki Kaurismäki, où il y avait aussi une espèce d'accomplissement d'une œuvre. On espère que ce n'est pas le dernier, naturellement. On espère qu'ils vont encore nous en faire d'autres comme ça, voilà. Oui. Je t'ai coupé, René.
Non, je voulais simplement dire que ce qui est fort chez ce type aussi, dans un monde où les gens ne savent pas trop ce qu'ils veulent, ou comme le dit la chanson, on nous inflige des désirs qui nous affligent, lui, c'est un type qui sait ce qu'il veut. Je crois que le mal du monde dans lequel on vit, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Lui, c'est ce qu'il veut.
Voilà. Alors nous.
Après, c'est aussi un film rempli de nostalgie, je veux dire, et qui écoute encore des cassettes audio, qui écoute. Alors, il y a tout ce côté-là en fait qui fait du bien parce que c'est notre enfance. Donc pour une certaine génération, c'est voilà.
Non, moi je suis né à l'époque du MP3. Je ne vois pas de quoi tu veux parler.
Mais tout le monde va ressortir ses cassettes et ses.
Je n'en ai plus. Il nous faut quitter. Mais nous aussi, nous savons ce que nous voulons, c'est aller au cinéma, n'est-ce pas? Merci de nous avoir écoutés. Heureuse fin de semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.